www.radio-g.fr.
Il est 21h, passé de quelques minutes. Vous êtes rentré chez vous, le pas alerte, des pensées noires vous monopolisant l'esprit. Faut dire aussi que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu le droit de prendre un apéro avec des amis. Alors, vous avez peut-être triché, préparé un canapé-lit pour un soir, tiré les rideaux, fermé les volets. Vous avez mis la radio en sourdine de peur d'éviter la curiosité d'un voisin. Vous êtes allé dans votre cave. On avait ramené une bouteille, peut-être deux. Peu avant 18h, le carillon de la porte d'entrée a sonné. Et ils sont là. Ils vous ont apporté le dessert, comme on dit. Et vous, vous vous sentez revivre parce que les amis, le soir, ça fait du bien. Vous avez peut-être pensé à vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui écoutaient Radio Londres le soir, la trouille au ventre, de voir débarquer les Allemands. Et vous vous rendez compte que vous avez exactement la même trouille au ventre, alors que votre seule transgression aux règles en vigueur dans notre démocratie est d'avoir invité à dormir des amis, puisque depuis aujourd'hui 2 mois, le couvre-feu est en vigueur en France. Vous pouvez pousser un ouf de soulagement. Ce soir, retour à la normale. Vous allez pouvoir écluser un fond de bouteille tranquillement. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous. Linda, Luc et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Et maintenant, générique maestro. Écoutiez la BO de GoldenEye, 17e film de la franchise James Bond, réalisé en 1995 avec Pierce Brosnan qui incarne l'agent 007 après la démission de Timothy Dalton. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce film en particulier ? Eh bien, on déroule le programme de cette émission et j'y reviens. Dans sa chronique Sueur froide, Linda nous causera d'un petit film de Clint Eastwood d'après un grand roman de Denis Lehane, à moins que ce soit l'inverse. Je veux bien sûr parler de Mystic River. Luc, lui, préférera vanter Albert Simonin et son roman Une balle dans le canon pour sa rubrique « On n'achève pas les classiques ». Et l'essentiel de l'émission sera orienté espionnage. Plus particulièrement, femme espionne, avec un focus sur nos secrets trop bien gardés de Lara Prescott chez Robert Laffont, une interview croisée de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet qui propose Les espionnes racontent, une coédition Stenkis Arte Édition, une bande dessinée de non-fiction avec 6 portraits de femmes espionnes au service de leur nation. La bande dessinée est le prolongement de la mini-série éponyme d'Arte et de l'essai tout aussi éponyme de Chloé Eberhardt chez Robert Laffont, paru en 2017. Enfin, notre débat DVD de la quinzaine portera sur The Human Factor, autrement dit le facteur humain, dernier film d'Otto Preminger d'après le roman là aussi éponyme de Graham Greene, l'un des maîtres de la fiction d'espionnage, avec à travers ça un personnage féminin troublant, Iman, ancien mannequin, mannequin somalien, veuve de David Bowie, et nous verrons que tout est lié dans ce bas monde de l'espionnage. Enfin, nous vous ferons un petit topo sur quelques livres et DVD d'espionnage. Mais revenons à GoldenEye. Quand on parle de James Bond et de femmes, on pense irrémédiablement James Bond Girls. Eh bien, GoldenEye marque un tournant dans la franchise James Bond. Non pas parce que Tina Turner marque de son empreinte la BO du film, non. Mais parce que pour la première fois, le personnage de Q est incarné par une femme, la très smart Judi Dench. Arrêtons-nous maintenant sur le roman « Nos secrets trop bien gardés » de Lara Prescott qui vient de sortir chez Robert Laffont. Le roman est une enquête littéraire à la fois fictive et de non-fiction autour de la genèse du roman « Le docteur Jivago » de Boris Pasternak. Jusqu'ici, on se dit que le rapport avec l'espionnage n'est pas très évident. Pourtant, il y a un lien, et ce lien est tout sauf capillotracté. Le roman porte principalement deux voix qui sont des deux côtés du mur de Berlin. Du côté russe, il y a celle de la muse de Boris Pasternak, Olga Ivinskaya. Dès le début du roman, alors qu'elle est enceinte, elle est arrêtée par l'ancêtre du KGB et soumise à une torture mentale et à un chantage forcené. En ces années 1950, Staline veut en savoir plus sur la teneur du docteur Jivago, le roman de Boris Pasternak. Alors, il faut bien vous dire qu'à l'époque, Boris Pasternak jouit en Russie, URSS, d'une aura toute particulière. C'est un monstre sacré qu'on ne peut abattre comme ça. D'où l'idée d'attaquer par le flanc, et si possible féminin. Du côté américain, une jeune analyste d'origine russe, Irina, travaille pour la CIA. Et cette dernière, la CIA donc, va s'attacher à promouvoir le docteur Jivago, car à cette époque, on pense encore que les mots peuvent changer le monde. Il y a dans le premier roman de Lara Prescott une troisième femme et un troisième point d'ancrage situé en Italie. Il y a surtout des destins de femmes ordinaires qui se battent de façon extraordinaire, surtout par conviction. Lara Prescott n'est absolument pas une styliste, mais c'est une conteuse. Son roman a tout l'apparat de l'époque dans laquelle il fait évoluer ses personnages. Le regard qu'elle porte sur les différentes sociétés est sans concession. Le roman se dévore. On a peine à croire que parmi tout ce qui est écrit, nombre de faits sont véridiques. Et puis, on repose le livre avec une envie terrible, celle de lire le roman de Boris Pasternak. Si beaucoup ont vu le film avec Omar Sharif, peu ont lu le roman, et très peu l'ont relu. Je l'ai dit, Lara Prescott, qui a fait des études de sciences politiques, est une redoutable conteuse. Et les portraits féminins qu'elle dresse sont de toute beauté. Rappelez-vous ce titre magnifique, « Nos secrets trop bien gardés » de Lara Prescott. C'est chez Robert Laffont. Mais c'est maintenant l'heure de faire la découverte de Jonah Mendes.
Mais elle est où cette maison? Me dites pas que je me suis encore perdue. Jonah et son mari habitent à la campagne, à une bonne heure de voiture de Washington. Jonah Mendes est immense, peut-être 1m80, et terriblement sympathique. C'est la plus hollywoodienne des espionnes que j'ai interviewées pour mon livre. À la CIA, elle occupait le même poste que Q dans James Bond. Elle apprenait aux officiers de terrain à se servir des gadgets. Quant à son mari, vous vous souvenez du film Argo? Ben Affleck y joue un officier de la CIA qui, en pleine crise iranienne des otages, exfiltre 6 diplomates américains en les faisant passer pour des professionnels du cinéma.
Eh bien, le personnage de Ben Affleck, c'est Tony Mendes. C'est mon mari.
Vous venez d'écouter la première minute du film d'animation consacré à Jonah Mendes, issu de la série Les Espionnes racontent, disponible sur Arte Replay jusqu'en 2023. Précipitez-vous quand même, car vous devriez y jeter un œil. La série comporte 7 épisodes d'une durée maximale de 7 minutes. 49 minutes, quoi. L'univers créé par Aurélie Paulet est tout en couleurs à l'opposé du monde de l'ombre qu'il décrit. Alors, Les Espionnes racontent, c'est une bande dessinée particulièrement originale, puisqu'elle dresse le portrait de 6 femmes qui ont un parcours atypique. Elles ont été espionnes au service de leur pays. À noter que parmi les 6 se cache une agente double avec des motivations elles aussi valables. Là aussi, le dessin se prête bien à l'univers. C'est assez troublant ce contraste. Les portraits sont ceux réalisés par la journaliste d'investigation Chloé Eberhardt, fruit de sa patience, de son abnégation et de ses recherches. L'intérêt principal de la bande dessinée, c'est qu'elle permet d'avoir un panorama assez complet du monde de l'espionnage de la guerre froide. Il ne manque peut-être qu'une espionne chinoise. Ces 6 femmes s'appellent Geneviève, Martha, Jonah, Gabriele, Ludmila ou Yola. Et toutes sont confrontées à la même problématique, le mutisme. Et pourtant, elles se confient. Et à travers ces confessions, on est amené à les comprendre un peu mieux. Il faut dire que toutes ont des motivations différentes. Toutes ont une même particularité. Ce sont des femmes indépendantes avec la tête froide et sur les épaules. En plus, aucune ne regrette ses actes. Au fil des 180 pages de cet album qui se dévore et se contemple, on appréhende les mécanismes d'un monde qui était aux portes de l'explosion et où l'idéal était de mise. Peut-être a-t-on perdu ça avec, en prime, le romantisme. Toujours est-il que c'est un magnifique travail de terrain, de couleurs et de visuel, et qu'on a férocement envie de découvrir d'autres portraits de ces femmes de conviction. Place maintenant à cette interview croisée entre Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet. On commence cette petite interview croisée avec la dessinatrice Aurélie Paulet. Alors Aurélie, avant de collaborer avec Chloé Eberhardt, vous connaissiez quoi au monde de l'espionnage ?
Et bah écoutez, en fait c'était un imaginaire assez concret et assez familier parce que figurez-vous que dans ma famille, mon grand-père maternel, enfin on avait découvert longtemps après son exercice, donc je pense que je devais être adolescente à ce moment-là. Il avait cessé depuis le temps ses fonctions, mais on avait découvert longtemps après que il avait été lui-même un ancien agent des services de renseignement français du SDEC, donc qui à l'époque s'appelait le SDEC, l'ancien DGSE. Et donc finalement, quand Juliette Guigon, la productrice de Squawk, qui a produit la série, dont est tirée la BD, m'a parlé du projet, bah, j'ai tout de suite vu un lien très très fort avec mon histoire personnelle.
Elles ont quoi en commun, ces espionnes?
C'est une très bonne question, parce qu'en effet, souvent... Je pense plutôt à ce qui les distingue les unes des autres, mais en effet, il y a vraiment des éléments en commun. Pour moi, ce qui est le plus marquant comme point commun entre chacune d'elles, c'est l'engagement pour leur service. En fait, elles sont toutes, les choix qu'elles font vraiment des choix difficiles, des choix de vie vraiment difficiles. de dissimulation ou de prise de risque ou de sacrifice personnel sont faits par engagement et par passion pour leur métier.
Mais laquelle vous a le plus marqué ?
Eh ben, c'est vraiment pas facile de répondre à cette question parce qu'elles racontent toutes le monde de l'espionnage et le métier d'espion différemment. Oui, alors donc elles ont toutes des parcours fascinants et qui racontent chacun un aspect bien spécifique du métier, je trouve. Donc tous m'intéressent. J'ai été particulièrement touchée. Émotionnellement, j'ai été très touchée par le récit de Ludmila qui a dû à chaque fois quitter ses amis, s'éloigner de sa famille, de ses proches pour finir par même mentir à ses propres enfants sur sa véritable identité et aussi par le destin de Gabrielle Gast, donc qui est l'ancienne espionne de la Stasi qui était en fait une taupe et qui travaillait pour la BND, donc pas pour les services secrets de l'Ouest, mais officiellement pour les services secrets de l'Ouest et officieusement pour la Stasi. Et son parcours à elle est vraiment déchirant parce que en fait elle s'est vraiment consacrée au communisme, enfin aux valeurs de son parti de cœur, et elle a sacrifié sa vie pour ça, et elle a finalement été cataloguée comme une secrétaire sans cervelle parce qu'elle était arrivée dans ce service par une rencontre amoureuse qui finalement s'était arrêtée assez vite et elle était restée malgré tout parce qu'elle s'était prise de passion pour les valeurs et pour le parti et elle a fait un travail qui a joué un rôle très important pour les services secrets de l'Est, vraiment fondamental. Je pense que c'était une personnalité clé de l'espionnage à ce moment-là et pour finalement être réduite à juste une écervelée, ce qui était absolument qui était complètement éloignée de la réalité du rôle qu'elle avait joué. Et donc cette injustice profonde m'avait vraiment bouleversée au moment où j'ai découvert le livre de Chloé.
Pour les espions de raconte, vous vous sentez plus inspiré par l'expressionniste allemand ou l'art déco russe ? Quel choix avez-vous fait ?
Dans ce cas, plutôt expressionnisme allemand c'est vrai que j'aimais bien pour ce projet donner un aspect un peu vintage au visuel parce que j'avais très envie qu'on se plonge dans les quotidiens de l'époque de ces femmes. Donc on est quand même dans les années entre les années 60 et les années 80. Enfin, on imagine vraiment un décor spécifique pour en fonction des lieux et des époques. Et donc j'avais envie de quelque chose de très coloré. Et puis aussi d'associer à chaque espionne une gamme de couleurs spécifiques en fait liées à son environnement. Par exemple, pour l'allemande, j'avais envie qu'on soit dans une ambiance colorée un peu à la Derrick parce que ça m'amusait et puis je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance le RDA dans les années 70, enfin dans les années 80 pardon, parce qu'on est plutôt dans les années 80. Pour Martha, au sud des États-Unis, au Panama, là pour le coup, j'imaginais des couleurs très vives. Il fallait que ce soit un peu exotique, quoi. Donc je sais pas trop comment répondre à votre question, mais je pense que ce serait plus le graphisme populaire soviétique, avec des compositions très marquées, des couleurs vives, et puis une sorte de mise en scène du réel comme ça, un peu stylisé. Ça m'inspire beaucoup. J'ai voulu comme ça dans ce projet que ce soit à la fois suivre une grande exigence documentaire, enfin que ce soit vraiment des décors réalistes, être au plus proche de la réalité de l'époque, et en même temps donner un ton un peu stylisé, notamment à travers les personnages qui ont été recréés à partir de photos, mais qui restent quand même qui sont une réappropriation de leur visage parce qu'on les reconnaît pas vraiment.
Pourquoi avoir fait le choix de l'intimité avec ces espionnes ?
Oui, et en effet, moi c'est aussi ce qui m'a beaucoup touchée dans ces histoires, c'est qu'on sait que ce sont des destins exceptionnels, mais ce sont des personnes normales comme vous et moi. Et ce rapport-là entre l'exceptionnel et l'ordinaire est vraiment très fort dans les récits de Chloé. Pour montrer ça, pour vraiment montrer que ce sont des personnes qui pourraient être nos proches, notre mère, notre sœur, notre cousine, notre amie. Je voulais les caractériser le plus possible, notamment à travers leur univers personnel en fait. Donc on les voit souvent dans leurs intérieurs et j'ai essayé au maximum de caractériser la manière dont par exemple elles décorent leur salon quoi. Entre Ludmila qui a ses petits coussins en laine super kitsch avec des petits chiens, des petits animaux en porcelaine partout, et pareil Gabrielle qui a une sorte de décoration plutôt rustique allemande, et par contre Jonah qui a une maison incroyable au milieu de la forêt sur pilotis, une maison qui fait rêver et qui colle aussi avec son destin un peu hollywoodien. Il y a comme ça, chaque intérieur raconte quelque chose d'elle-même et de leur personnalité plus intime quoi. Et j'ai essayé au maximum de le valoriser. C'est pour ça aussi qu'est-ce que t'es un peu vintage, je pense. Et c'était pour les rendre en fait plus proches de nous.
Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la présence de Chloé dans la bande dessinée?
C'est vrai que ça, c'est ce qui est la force de l'enquête de Chloé. C'est qu'elle s'est assez vite dit, il faut que je me mette en scène dans ces rencontres. Au début, dans un souci de journalisme, et de neutralité, elle voulait pas du tout se mettre en scène parce qu'elle se disait je m'en fiche de moi, je veux juste parler de ces femmes, ça m'intéresse pas de parler de moi. Et en fait assez vite elle s'est dit mais il manque un point de vue, il manque une confrontation de point de vue. Et donc la présence de Chloé dans ses récits, la mise en scène de Chloé dans ses récits permettait donc déjà d'une part d'avoir un fil rouge narratif et de comprendre aussi la difficulté de pouvoir rencontrer ces femmes, parce que c'est un énorme travail que Chloé a dû faire pour les atteindre les unes et les autres. C'est un travail de fourmi, c'est une enquête vraiment fastidieuse. Et déjà, donc, ça permettait de créer un fil rouge narratif et de montrer la difficulté d'accéder à ces femmes. Et d'autre part, ça permettait en effet de créer un dialogue, quoi, entre une jeune occidentale justement qui n'a du mal à s'imaginer qu'on puisse s'engager corps et âme et tout sacrifier pour son parti, et ces femmes qui ont toutes des points de vue différents, et une histoire différente, et une culture différente. Et c'est vrai que le fait de mettre en scène leurs dialogues et leurs entretiens permettait vraiment de valoriser cet échange-là.
Chloé, qu'est-ce que vous pensez du travail d'Aurélie ?
Je suis très admirative de tout ce qu'elle a fait, en fait. Enfin, c'était vraiment une rencontre qui a été provoquée par des producteurs vraiment super, dont elle a dû vous parler. Juliette Bigon et Patrick Binocourt, ça aurait pu ne pas du tout accrocher, surtout que moi, j'avais peur. Enfin, c'est marrant parce que de la même façon que je voulais que mon écriture puisse se lire comme un roman et que ce soit agréable à lire, je voulais que le dessin soit joli. C'est mon côté peut-être un peu midinette, mais je voulais pas d'un trait ultra documentaire, très réaliste, très noir et blanc. Enfin, je voulais que sans qu'elle soit forcément, enfin sans que les femmes soient elles-mêmes forcément jolies, mais je voulais que ce soit beau à regarder, qu'il y ait plein de couleurs, que vraiment ce soit riche de je sais pas, de plein de joie et d'aventure. Enfin, j'avais un peu peur quand ils nous ont présenté que ce soit un illustrateur qui prenne le côté documentaire de mon travail de façon austère, alors que moi je voulais que ça se lise comme quelque chose de fun, même si encore une fois tout est sérieux et tout est vrai. Et donc c'était assez évident quand j'ai formulé ça, et sans trop savoir si j'avais le droit d'ailleurs de d'exiger quoi que ce soit, mais elle était complètement sur la même ligne que moi. Et donc la rencontre s'est faite de façon assez évidente, et on est tombé très vite d'accord aussi sur le système de bichromie que je trouve vraiment vraiment chouette, en fait, que chacune ait deux couleurs, enfin tout le jeu des couleurs, en fait, que chacune soit portée par deux couleurs qui font du sens, en plus évidemment le rouge pour le KGB, etc. et puis le noir et blanc qui est à la fois qui raconte le documentaire et permet de séparer, parce que ça a été assez compliqué de trouver un dispositif qui permette de séparer les différentes temporalités, les allers-retours entre le temps de l'enquête et puis le temps du récit. Donc j'ai trouvé qu'elle était hyper astucieuse en fait, tout le temps. Elle trouvait toujours des idées incroyables de mise en scène auxquelles je n'aurais jamais pensé. Bon, après c'est pas mon métier, mais je trouve vraiment qu'elle a, elle a à la fois, elle a bossé avec une documentariste pour récupérer des photos d'archives pour illustrer les décors de la façon la plus réaliste possible, tout en les stylisant. Et moi, c'est exactement ça que je voulais en fait, c'était qu'on ait le même positionnement, de être au plus près du réel, tout en s'autorisant que ce soit agréable à découvrir en fait. Et pour ça, j'ai trouvé qu'elle rendait complètement justice, enfin en tout cas qu'on avait une approche. Une approche très similaire, donc en fait très vite je me suis complètement rangée à ses idées, à son point de vue, parce que je lui faisais confiance tout le long et je trouve que l'objet au final est très beau, donc je suis contente.
Comment avez-vous choisi de travailler sur cette bande dessinée ?
Alors on a choisi de travailler sur les mêmes 6 espionnes qu'on avait choisies pour la série d'animation, sachant que dans le livre il y en a 8 ou 9. On a choisi donc d'enlever l'autre russe qui avait un profil plus problématique. Pour elle, j'ai eu vraiment énormément de mal à trouver des interlocuteurs qu'il avait côtoyé ou qui pouvaient valider ou invalider ce qu'elle m'a raconté. Parce que dans la mesure du possible, j'ai essayé de rencontrer le chef de Yola, le mari de Geneviève, enfin des gens de leur entourage que je voyais séparément et qui me racontaient aussi leur parcours, et de lire aussi beaucoup de livres sur ce qui s'est passé au Panama pour Martha, enfin etc. Pour cette Russe, c'était quasiment impossible de vérifier ce qu'elle me disait, et elle avait un discours nationaliste, pro-stalinien, pro-Poutine, extrêmement virulent, qui faisait que je la soupçonnais d'être dans une attitude un peu de propagande. J'avais quand même des doutes sur la réalité de ce qu'elle me racontait. Et donc, c'était très compliqué. Et en 6 minutes d'épisode, et en je sais plus combien de pages, je fais un chapitre de roman graphique, mais c'était très compliqué de raconter tout ça. L'avantage de l'enquête écrite, c'est que justement, on peut exprimer nos doutes en tant que journaliste, on peut aller chercher tel historien qui contredit. Enfin, donc, bon, ce personnage-là était trop complexe pour les formats série et BD. Et on a aussi enlevé notre interlocutrice qui était l'ancienne patronne du MI5, Stella Remington, avec qui j'ai passé un peu moins de temps que les autres. On s'est dit qu'il y aurait moins de matière à exploiter. Et puis après, il y a toutes les autres que je mentionne dans le livre, mais à qui je n'ai pas consacré le chapitre entier parce que elles m'en ont dit trop peu ou je les ai vues vraiment trop peu de temps. Et moi, vraiment, ce que je voulais pour chacune, c'était les rencontrer, pas seulement leur écrire ou lire des livres qu'elles avaient pu écrire, et puis passer du temps avec elles le plus possible, et que chacune me raconte soit une opération pour celles qui ont fait du terrain, soit un dossier pour celles qui faisaient plutôt de l'analyse, de façon à avoir une histoire à raconter, à ce que ça se lise ou regarde comme de la fiction, alors que ça n'en est pas. Et donc du coup, voilà, il y en a pas mal que j'ai rencontrées qui soit m'ont dit, je suis allée en Roumanie pour m'entendre dire qu'en fait elles voulaient plus me parler, et j'ai rencontré des femmes chez elles pendant 2 heures qui m'ont dit 2-3 petites choses, et puis après elles voulaient plus m'en dire plus, donc celles-ci on les a pas gardées.
Justement, Chloé, comment faire un portrait juste sans trop d'empathie ?
L'adjectif de juste, je pense que quand on est journaliste, quel que soit l'exercice, c'est ce qu'on cherche. À défaut de réussir à faire objectif ou à faire vrai, on essaye en tout cas que ce soit le plus sincère et équilibré possible, et de tenir sa place d'observateur sans s'engouffrer dans l'idéologie ou l'émotion ou le point de vue. C'est en tout cas comme ça que moi je perçois les choses. Donc c'était vraiment un exercice journalistique que j'avais en tête. Et l'empathie... Bon, moi je suis quelqu'un d'assez empathique, et puis quand je passe du temps avec des gens qui m'accordent du temps, qui me racontent leur vie, je pense que voilà, on a, pour transmettre ce qu'ils ont à dire, il faut les présenter comme des êtres humains sensibles, complexes, et je pense que c'était d'autant plus important d'humaniser ces femmes qui sont tellement stéréotypées dans l'imaginaire qu'on a. Donc Donc les rendre sympathiques, je sais pas, mais en tout cas les présenter comme des êtres de chair, plein de contradictions, et voir à quoi ressemble leur intérieur, voir à quoi elles ressemblent physiquement. Est-ce que ce sont des petites mamies esselées qui n'ont jamais eu d'amis ni de famille parce qu'elles ont toujours vécu sous couverture à l'étranger, ou est-ce qu'au contraire elles s'occupent de leurs petits enfants toute la journée et elles ont plein d'activités associatives. Enfin, je suis assez curieuse de voir à quoi ça ressemble une espionne à la retraite, et je voulais vraiment qu'il y ait ce côté. C'est pour ça que je voulais les voir chez elles quand c'était possible. Je voulais vraiment connaître le plus possible leur intimité, en fait. Et donc je pense que l'empathie vient de là aussi, de cette recherche d'en faire des personnages assez complets.
Elles ont gardé quoi comme sentiment de cette époque, et pourquoi elles vous ont parlé, ces espionnes?
Elles ont toutes eu le sentiment de servir leur pays avec une grande sincérité, je crois, quel que soit le service, quelle que soit la politique menée à l'époque, qu'elle soit du côté des gagnants de la guerre froide ou des perdants. Donc il y a ce trait commun là. Et après, je dirais que toutes, bien qu'elles ne se revendiquent pas toutes du féminisme, loin s'en faut, toutes malgré tout, je pense, je me suis beaucoup demandé pourquoi elles avaient accepté de me parler, puisque c'était quand même un peu contre nature. Je pense que toutes ont au fond besoin ou envie de rectifier un peu justement cette image stéréotypée et assez dévalorisante de la femme dans l'enseignement. Et en racontant ce qu'à leur niveau elles ont accompli, d'une certaine façon, elles corrigent un peu cette image-là et rétablissent leur vérité qui est forcément plus proche de la vérité historique que les potiches de Jimmy.
Comment ne pas vivre dans la solitude quand on est espionne à la retraite?
Ouais, ben, je pense que c'est une des grandes souffrances de ce métier, c'est la solitude inhérente, en fait, et cette humilité qu'il faut et qui est justement, je trouve, très mal décrite par James Bond. On a l'impression que James Bond ne passe pas inaperçu. Et or, un bon espion, normalement, il passe inaperçu et ses amis ne savent pas ce qu'il fait, ou alors ils savent vaguement qu'il travaille au ministère de l'Intérieur ou que sais-je. Donc il y a une grande humilité, et jouer au cow-boy et faire le malin, c'est pas du tout une qualité requise. Et je pense d'ailleurs que moi, si j'ai choisi de parler à des femmes à la retraite, c'est parce que les femmes en exercice sont encore plus tenues au secret. Et donc là, il s'agissait pas non plus ni de les pousser à la faute, ni de recueillir uniquement des témoignages généraux, froids, sans justement ces histoires que je voulais pouvoir raconter. Donc c'était plus facile avec des personnes retraitées qui pouvaient me parler d'affaires déclassifiées ou d'affaires que leur hiérarchie autorisait à partager si on changeait le nom d'un pays ou d'une personne. Enfin, après, on s'est un peu arrangé. Mais je pense que la plupart ont quand même pris plaisir à parler, parce que précisément, c'est ce qu'on leur a interdit toute leur vie. Et je pense qu'elles n'échappent pas à cette règle qui est qu'on a besoin, surtout, je pense, au soir de sa vie, de regarder un peu en arrière et de raconter ce qu'on a fait. Donc je pense que c'est clairement une des motivations aussi derrière leur témoignage. Et je pense que c'est effectivement très dur, hein, de pas pouvoir partager même avec ses proches, surtout quand on fait des choses parfois soit dangereuses, soit moralement compliquées. Manipuler quelqu'un pour qu'il prenne des risques en vous parlant, on a beau essayer de vouloir le protéger, on a beau lui dire le service va te protéger, la personne, elle prend des risques pour vous. Et je pense qu'il y a des dilemmes éthiques qui ne doivent pas être simples à gérer. Et surtout quand on est un peu seul à se questionner là-dessus. Donc ouais, je pense que c'est une qualité. Effectivement, là pour le coup, on parlait de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé dans le renseignement entre hier et aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être peut-être encore plus compliqué de supporter cette solitude et cette non-reconnaissance-là.
Enfin, on écoute quoi comme musique maintenant?
Eh bien, on va écouter David Bowie, période Berlin. Et j'ai découvert assez récemment, je ne savais pas que le titre Heroes était inspiré d'un couple que David Bowie avait vu s'embrasser au pied du mur. Et je trouve que que voilà, c'est plus original que Tina Turner chantant James Bond, même si j'aime beaucoup. Et ça raconte la guerre froide et c'est un petit clin d'œil à Gabrielle avec qui j'ai passé des moments hyper intéressants.
Vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM. Nous écoutions sur les conseils de Chloé Berhardt, David Bowie. Mais vous entendez cette petite musique ? Elle annonce l'heure de notre débat DVD. Et oui, il est un peu en avance. Nous nous intéressons de très près à The Human Factor d'Otto Preminger. Le réalisateur qui nous avait enchanté avec Laura ou encore le mystérieux docteur Corvo nous propose avec cette adaptation de Graham Greene un film d'espionnage crépusculaire avec Nicole Williamson, Richard Attenborough et l'inoubliable Robert Morley. Les femmes sont quasiment absentes de ce récit double. Mais il y en a une, et elle est à l'origine de presque tout. Interprétée par Iman, l'actrice somalienne joue ici son premier rôle. Elle aura une carrière plutôt mineure, même si elle aura également un rôle dans Out of Africa de Sidney Pollack. Elle jouera enfin dans 9 autres longs métrages. Mais place à un extrait avant que Luc nous raconte plus en profondeur le synopsis de ce film.
Sir, Brigadier Tomlinson wants to see you.
Brigadier Tomlinson?
Yes, sir. Upstairs, room A3.
A3, thank you.
Castle, come in. I don't think you know Colonel Daintree.
How do you do?
Sit down.
I think I knew a cousin of yours at Cambridge.
Colonel Daintree's just joined the firm. He's taken over security.
I suppose you mean my cousin Roger. I haven't seen him for years. He's at the Treasury. He got a first in mathematics. I got a poor third in history, so I'm in the Secret Service.
I explained to Colonel Daintree that only you and Davis deal with top secret cables as far as Section 6A is concerned.
Of course, Watson is in charge of 6. He sees them too.
Davis was at Reading University, I believe.
You've been having a chat with him, have you?
Well, I talked to Davis about you, so now I'm talking to you about Davis. It's an open check.
Human Factor est étrangement traduit en français par La guerre des otages et perd ainsi son charme so british. Maurice Castle, Richard Attenborough, travaille pour les services britanniques aux affaires africaines en Afrique du Sud, suite à la rencontre qu'il fait avec Sarah, Iman, qui attend un enfant d'un autre homme et dont il est tombé amoureux. Il se rapproche de Connolly, militant du Parti communiste. Il rentre à Londres et se marie avec Sarah et mène une vie d'agent double. Une fuite est détectée par les services secrets et des enquêtes sont menées. Les soupçons se concentrent sur Arthur Davis, Derek Jacobi, alcoolique notoire et collègue de Maurice Castle. Pour régler définitivement le problème, il va être empoisonné par les services secrets. Mais parallèlement, un piège tout bête avait été tendu. Lancer une fausse information et vérifier comment elle circule grâce à la complicité d'un agent double soviétique à Moscou. Et le piège se referme sur Maurice Castle. La réalisation, si elle est très convenue, reste quand même le résultat d'un grand metteur en scène. N'oublions pas qu'il est celui qui a mis en scène La rivière sans retour, Ce qu'il sauve, c'est le roman de Graham Greene, qui porte le même nom, qui a servi de base au scénario. Et ce n'est rien moins que Tom Stoppard qui l'a adapté. Bien qu'américain, Otto Preminger a réalisé un film totalement anglais. Réalisé en 1979, au temps des belles heures de la guerre froide, il a mis beaucoup de soin, trop à mon avis, à reconstituer la discrétion, l'extrême élégance et la distinction britannique. Tous les échanges sont polissés et il n'y a aucune violence. C'est son dernier film et il semble bien sage, la mécanique mise en place est pourtant redoutable. C'est la guerre froide, les soviétiques sont parfaitement désignés comme les grands ennemis. Mais l'engagement de Maurice Kassel n'est pas pour la cause du communisme. C'est la découverte des manipulations de la Grande-Bretagne aux côtés des Américains pour empêcher l'emprise des Russes sur l'Afrique du Sud qui les priverait de l'approvisionnement en or, en diamants et en uranium qui le font agir. Richard Attenborough compose un rôle parfait d'agent double, antithèse du désinvolte et cynique James Bond. Tout le casting est à la hauteur avec une brochette de comédiens tous plus authentiquement anglais les uns que les autres. Iman, Sarah, la femme de Maurice Kassel, est moins convaincante, mannequin, et ce serait difficile de ne pas le comprendre tant sa silhouette est longiligne, The Human Factor est son premier rôle. Peut-être que le film se laisse voir à cause des conflits de loyauté auxquels Maurice Kassel est soumis, par rapport à son pays, par rapport à l'Afrique du Sud, dont il sait qu'elle n'a d'intérêt que pour ses richesses, et surtout par rapport à sa femme, qui par le fait qu'elle soit originaire d'Afrique du Sud, concentre et illustre en elle-même toute la situation.
The fucking human factor, aurait-on pu ajouter. En hommage à nos amis québécois, le fameux PFH, putain de facteur humain, très bien résumé par Hubert Reeves. Pourquoi, quand on sait ce qu'on sait, on ne fait pas ce qu'on devrait faire en conséquence? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est peut-être aussi en ça que les figures du couple, personnages centraux, monsieur et madame Kassel, sont surprenants. Ce Maurice, so British and propre sur lui, est finalement beaucoup plus savoureux que cette cherry jelly qu'il aurait pu évoquer sur les premiers plans. Et s'il y a un personnage savoureux par excellence, c'est le docteur Percival, silhouette bedonnante au faciès adipeux qui fait la leçon à un des agents quant à son hygiène de vie et à l'état dégradé de son foie. Savoureux, je vous dis. D'ailleurs, la scène où Maurice Kassel et donc cet agent Davis, ils sont tous deux agents d'ailleurs, en compagnie du fameux docteur, boivent des coups dans un club à stripteaseuse. Soit dit en passant, la stripteaseuse, elle avait dû cocher poissonnière, je pense, en option au bac. Ne vous méprenez pas, je n'ai aucun mépris pour les poissonnières. Juste essayez d'en visualiser une. Ah, vous voyez, vous la mettez en train de travailler, tout ça. Sauf que pour unique vêtement, elle a un string pailleté et elle est juchée sur des chaussures à talons hauts. Pas hyper pratique quand même hein, pour manier les cagettes. Mais bon, visiblement, le docteur Percival ne partage pas mon ressenti, puisque a dévoré le corps splendide, au demeurant, de la jeune femme. Il donne l'impression qu'il va avaler son cigare. Et oui, ce même docteur, d'ailleurs, qui ne veut pas se marier parce que la saison de la pêche à la truite est si courte. Et à l'instar de ce bon Percival, eh bien, je trouve que c'est un film d'espionnage qui n'est pas là où on l'attend. Enfin, là où je m'y attendais en tout cas. Quand on sait que notre personnage principal n'est pas fichu d'abattre correctement un chien qui ne bouge pas, là, si vous voulez, on est plutôt dans l'empoisonnement à la cacahuète. Oui, vous m'avez bien entendu. Non, c'est trop long à expliquer. Le mieux, c'est de regarder le film.
Alors moi, les amis, j'aime les romans et les films d'espionnage à la papa. L'ambiance de The Human Factor m'a séduit. Les premiers instants du film avec cet homme qui travaille dans un bureau, qui rentre le soir dans un petit cottage, ce premier contraste avec sa femme noire de peau et son enfant à elle qui tranche avec ce que l'on peut attendre et qui est prémonitoire de ce que l'on va voir par la suite est splendide. Et puis, il y a deux points d'accroche qui me paraissent diablement intéressants. Le premier, c'est Robert Morley. Ce comédien venu du théâtre est une sommité dans tous les sens du terme. Il est gigantesque et il incarne le côté british avec beaucoup de classe. Ceux qui le connaissent l'ont vu éblouissant dans la grande cuisine de Ted Kotcheff. Il était là en critique gastronomique, bouffi d'orgueil et adepte des joutes verbales. Ici, il incarne un docteur qui suit ses instincts, qui se trompe et qui pourtant a raison de se tromper puisque les faits lui donneront finalement raison. Robert Morley est pour moi un élément incontournable du film d'Otto Preminger. Et l'autre élément incontournable, c'est l'Afrique du Sud. Sans déflorer, l'histoire puise racine dans le continent africain. Et cet aspect territorial-là, en pleine guerre froide, est somme toute novateur. Vous l'aurez compris, j'ai une petite faiblesse pour ce cinéma avec des rouages pernicieux qui montrent tous les aspects machiavéliques de l'espionnage, un monde paranoïaque par excellence. Et Otto Preminger, quoi qu'on en dise, reste Otto Preminger. Un dernier mot, Luc ?
J'entends bien les enthousiasmes. Comment pourrait-il en être autrement, Otto Preminger, Graham Greene, des intouchables ? Mais c'est le dernier film d'Otto Preminger et cela se sent. Il a une carrière derrière lui et pas mal de chefs-d'œuvre au compteur. Je ne citerai que Carmen Jones, Porgy and Bess, Exodus et puis l'immense Laura. Mais on le sent presque besogneux dans The Human Factor. Il y a une méticulosité presque tatillonne. Et la bande originale ne fait rien pour arranger les choses. Ce qui sauve Otto Preminger, c'est son indéniable engagement, sa conscience politique et son attention aux humains broyés et renvoyés au statut d'objet. The Human Factor, c'est un film à voir indéniablement, mais au titre de curiosité, comme un objet de musée qui nous raconterait comment on faisait du cinéma dans les années 70.
Alors, en un mot, je dirais daté, mais pas vieilli. Un désuet pas mou du slip qui vaut le détour.
C'était notre débat DVD autour de The Human Factor d'Otto Preminger. Vous pouvez encore débusquer ce DVD chez Artedis ou chez Carlotta. Je ne sais pas si on vous a donné envie, mais le film vaut définitivement le détour. Et c'est l'heure maintenant d'écouter les sueurs froides de Linda. Quelque chose me dit que ce qu'elle va aborder vous rappellera quand même quelque chose. Linda, c'est à toi.
I want you to follow my wife. I'm afraid some harm may come to her.
I'm supposed to be retired. I don't want to get mixed up in this darn thing.
Mystic River. Pour beaucoup, Mystic River, en bon français, c'est le film de Clint Eastwood du début des années 2000. Excellent film d'ailleurs, avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gay Harden et Laura Linney, entre autres. Et bien ce film, disponible en DVD et VOD, est une adaptation du roman de Denis Lehane. Denis Lehane, je ne sais pas. Dont la traduction nous est arrivée dans les mêmes années que le film, d'ailleurs. Mais malgré les deux heures et quelques brassées de minutes, malgré le savoir-faire d'un Eastwood dans son élément, impossible de ne pas éluder quelques tempêtes intérieures. 585 pages pour construire les démons et autres monstres d'incertitude ou de revirement qui tous mèneront à l'implacable noirceur. Je vous plante le décor. Alors, Boston, 1975. Sean, gamin, plutôt posé, vit dans un quartier de propriétaires. Jimmy, la tête brûlée, et Dave, le suiveur en demande d'affection, eux, sont du quartier des locataires. Entre les deux coule la fameuse rivière. Leurs pères travaillent ensemble, alors le samedi, les gosses jouent ensemble dans la rue. Quand, un samedi, deux hommes arrivent, se faisant passer pour des policiers. Ils font monter Dave dans leur voiture sous prétexte de le ramener chez lui. Le garçon ne reparaîtra que 4 jours plus tard. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut seulement imaginer. Les enfants cessent de se fréquenter. Ils se retrouvent 25 ans plus tard, projetés dans un nouveau drame. Cathy, 19 ans, fille aînée de Jimmy, est assassinée. Sean, devenu policier, est sur l'affaire. Lui et son coéquipier soupçonnent Dave. Bah, c'est exact. Dave a le pédigré désigné. Enfant abusé, pas de père, mère à la dérive qui finit par se suicider, pas d'accompagnement psychologique. Le coéquipier se dit même, mais comment ça se fait-il qu'il n'est pas déjà derrière les barreaux, celui-là, hein? Conséquence d'une suite logique qui voudrait que la proie devienne à son tour prédateur. Et ça fait quoi, un prédateur? Eh ben, ça prédate. Dave, hanté par 4 jours d'horreur, s'est fabriqué une citadelle existence et inversement. À l'aide de menus mensonges quotidiens, d'omissions plus ou moins conscientes, plus ou moins douloureuses, muré dans la fuite de ses pulsions rageuses qu'il rattrape, toujours plus carnassière. Denis Lehane a ces mots. La pédophilie fonctionne comme les vampires. Une fois mordu, on est contaminé à vie. Le poison insidieux ne disparaîtra plus. Bon, évidemment, ce sont les mots du personnage de Dave, en pleine dépression, en plein craquage de nerfs, aux confins d'une nuit trop imbibée, et puis... C'est qu'il n'a jamais entendu parler de résilience ni de Boris Cyrulnik, hein, le Dev. Notez que ça pourrait être drôle. Mais bon, ça, on serait plus franchement dans la même littérature. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien spolié de décisif. Hein. Si je puis me permettre d'ailleurs, je trouve que le suspense est mieux tenu dans le film que dans le roman. Où un certain nombre d'indices quand même permettent de comprendre avant le dénouement. En tout cas, c'était mon cas. Non, je ne pense pas que ce soit dû à mon esprit excessivement brillant. D'ailleurs, je pense un truc, ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pages non plus. Hein. C'est le genre de littérature fluide qui vous aspire. Moi, lectrice exploratrice au cœur de vie d'un quartier de matières humaines à déchiffrer. Je me suis régalée.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58. Merci Linda pour cette chronique sur Mystic River. J'espère que nos auditeurs auront à l'égard de Denis Lehane, on dit bien Denis Lehane, et de Clint Eastwood, une curiosité non pas malsaine mais maladive. Et maintenant un nouveau jingle. Et c'est à Luc pour On n'achève pas les classiques. Aujourd'hui, Albert Simonin.
Aujourd'hui, Julien et Linda, pour cette chronique On n'achève pas les classiques, je vais vous parler d'un polar sans policier. Une affaire de gangsters et de voyous qui règlent leurs comptes entre eux comme des grands, mais surtout comme des sauvages. Et c'est un petit bijou retors à souhait. Son titre, Une balle dans le canon. Son auteur, Albert Simonin. Je te vois réagir, Julien. Albert Simonin, j'aurais dû plutôt parler d'un de ses 3 premiers romans et peut-être de Grisby en Not Grisby qui a servi de scénario au plus que célèbre film Les Tontons Flingueurs. Eh bien non, mon choix s'est arrêté sur un titre peut-être méconnu, celui de son 4e roman. Une balle dans le canon porte parfaitement son titre, mais voilà, divulgachage interdit. Si vous voulez savoir pourquoi, précipitez-vous pour le lire. Il s'agit d'une histoire diaboliquement tricotée par Albert Simonin. Tony et Dick, 2 anciens parachutistes, ont quitté l'Indochine en oubliant de rendre entre guillemets au Maltais, un gangster, 50 millions de francs. Des anciens francs, dites-le-vous, c'était encore le bon temps des colonies. 50 millions qu'il convoyait pour lui. Avec ces 50 millions, il rachète une boîte, le Tap Tap, mais voilà, nos 2 compères sont un peu trop jeunes et beaucoup trop naïfs. Ils n'y connaissent rien et la boîte perd de l'argent. Et pas qu'un peu. D'un autre côté, dans quel état pensez-vous qu'est le Maltais ? Eh bien, il n'est pas content, mais vraiment pas content du tout de s'être fait refaire de 50 millions et il veut récupérer son argent ou alors c'est la boîte de Tony et Dick qu'il récupérera. Et il leur donne 3 jours pour régler l'ardoise. Autre conséquence de cette affaire, les autres patrons de boîte sont inquiets. Leurs affaires tournent et ils ne veulent pas d'un retour du Maltais qui, au vu de son CV, va réveiller la police et accroître la surveillance sur le milieu. Tony et Dick commencent à paniquer sérieusement. Ils ne voient pas d'issue. Et c'est à ce moment qu'apparaît Pepper, un truand des plus discrets qui leur propose un coup qui devrait les libérer de leurs dettes auprès du Maltais. Le coup en question ? Dérober une centaine de millions produits de trafic en tout genre que le père de Brigitte, l'amoureuse de Tony, fait régulièrement transporter discrètement par hélicoptère en Suisse ou en Belgique. Tony et Dick sont deux perdreaux de l'année. Il leur reste encore un fond d'honnêteté. Dick est prêt à accepter le coup, mais Tony s'y refuse. Mais devant la pression du Maltais, trois jours, il cède. Le Maltais, Pepper, ça fait un peu boy scout comme environnement. Mais détrompez-vous, une balle dans le canon, c'est une machine infernale sans mauvaise graisse. Le pépère, par exemple, qui semble bien pépère, ne l'est pas tant que ça. Fourbe lui conviendrait mieux. Il y a une puissance d'écriture chez Albert Simonin. Au départ, on est déstabilisé par l'argot utilisé à outrance. Et on ne dispose pas du petit Simonin illustré, dictionnaire sur l'argot rédigé justement par Albert Simonin. Un argot désuet au regard de la langue actuelle. Mais cette langue qui préfigure celle de Frédéric Dard et de son San Antonio nous en rappelle une autre, celle de Boris Vian. Étrangement, dans le dernier tiers du livre, au fur et à mesure que la tension monte, l'argot se fait moins présent, peut-être par une recherche de concision de la part d'Albert Simonin. Et la séquence finale est à mes yeux un moment d'anthologie. Avec ce roman, Albert Simonin est dans le plus pur esprit du roman noir. On n'est pas loin de William Burnett. Je pense tout particulièrement à deux de ses romans, Dark Hazard ou Quand la ville dort. C'est du grand, du beau, du vrai polar, et sans l'ombre d'un policier ni d'un détective. Une balle dans le canon, c'est une plongée dans la pègre parisienne, et l'honneur du grand banditisme dont on nous rebat les oreilles, il en prend un sérieux coup. Le livre s'appelle Une balle dans le canon. Il est écrit par Albert Simonin, il a été publié dans la série noire sous le numéro 444 et il est à consommer sans modération.
Mille merci Luc, c'est bientôt l'heure, alors histoire de tenir parole, quelques ouvrages dignes d'intérêt. Tout d'abord, restons dans le thème des espionnes avec le document de Dalila Kerchouche, Espionnes, les femmes les plus secrètes de la République, disponible chez J'ai lu. Un prolongement du travail de Chloé Eberhardt à travers la rencontre d'une cinquantaine d'espionnes françaises qui se livrent à l'ancienne journaliste de l'Express. Vous y trouverez tout ce qui fait un monde de machisme, d'ombre et de pouvoir. Pas trop d'aventures cependant. Un autre portrait de femme très intéressant dans le premier volet BD de La guerre invisible chez Ruth Sèvres. Au scénario, le regretté Franck Giroux. Au dessin, Olivier Martin. Là aussi, on arpente le territoire africain, plus spécialement l'Égypte, à la recherche d'un savant nazi pour le compte de la CIA. Il y a tous les ingrédients d'une bonne série d'espionnage de l'après-guerre. Enfin, les éditions Artus Film proposent dans leur collection Eurospy deux pépites italiennes du mauvais goût, un mauvais goût que j'affectionne. Opération Re Mida de Jess Franco et Des fleurs pour un espion de Umberto Lenzi. Si vous voulez en savoir plus, réécoutez cette excellente émission que j'anime qui est sous les jupes des films sur Radio G. Aujourd'hui, on a causé espionnage avec nos secrets trop bien gardés de Lara Prescott chez Robert Laffont. On a aussi causé Les espionnes racontent de Chloé Eberhardt et Aurélie Paulet dans une très belle coédition Stenkis Arte Edition, mais aussi de The Human Factor d'Otto Preminger chez Artedis. Linda nous a fait dévaler Mystic River de Clint Eastwood pour le film et de Denis Lehane pour le roman. Quant à Luc, il nous a livré un Albert Simonin de Derrière ses fagots. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses. Le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours et on vous laisse avec nos amis imaginaires. D'ici là, portez-vous bien. Salut Luc, salut Linda et encore merci.
C'est déjà fini? Bon, alors... Au revoir les amis.
Au revoir Julien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de vrai, j'espère.
Angers, 101.5 FM.
Difficile de se fuir l'un et l'autre. Vu d'ici, les élans sont bas.